Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Fonction, votre podcast dédié à l'éducation fonctionnelle qui vous est offert par Mayuro et MOS. Depuis plus de 10 ans, Mayuro et MOS collaborent dans l'objectif d'assurer aux praticiens et aux patients des outils et traitements adaptés aux thérapies myofonctionnelles. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de mettre à profit leur lien solide pour vous offrir une série de podcasts dédiés à l'éducation fonctionnelle et visant à vous fournir un maximum d'informations complémentaires à votre travail. Ce sixième épisode sera l'occasion d'aborder la collaboration entre logopédie et ostéopathie en éducation fonctionnelle. Pour ça, j'ai le plaisir d'avoir autour de la table Laura Dauer, logopède.
Bonjour.
Anne-Sophie Muller, médecin généraliste.
Bonjour.
Et Pierre Stévenin, ostéopathe.
Bonjour.
Bonne écoute.
Parlons fonction.
Alors, Laura et Anso, on les a déjà entendus à l'épisode 2 et on les a déjà écoutés sur leur collaboration. Elles nous ont déjà expliqué pourquoi elles travaillaient en pluridisciplinarité en éducation fonctionnelle. Et Pierre, il est nouveau. Ce sera aussi l'occasion donc, d'aborder justement encore une autre discipline, l'ostéopathie en éducation fonctionnelle. On va commencer tout de suite. Laura, est-ce que tu peux remettre un petit peu le cadre dans lequel tu travailles et pourquoi tu pratiques l'éducation fonctionnelle quasiment à temps plein ?
Donc moi je suis logopède, spécialisée dans la prise en charge des fonctions orofaciales. Et évidemment, je travaille beaucoup avec l'éducation fonctionnelle parce que je pense que c'est un relais qui est vraiment nécessaire et efficace lorsqu'on poursuit les objectifs de réhabiliter des fonctions orofaciales efficientes chez l'enfant.
Anso, est-ce que je peux te poser la même question, s'il te plaît ?
Oui, donc moi je suis médecin généraliste, j'ai une pratique particulière puisque je m'attelle à faire beaucoup de prévention autour de ce qui effectivement touche aux fonctions orofaciales, à l'alimentation, je prends aussi en charge beaucoup de petits bébés, mais je vais effectivement collaborer avec des logos parce que je suis aussi convaincue de la nécessité de pouvoir utiliser l'éducation fonctionnelle pour les aider à mieux grandir, à mieux évoluer et avoir des fonctions orofaciales qui soient optimale sur le long terme.
Pierre, à ton tour, on va découvrir justement comment est-ce que toi tu abordes l'éducation fonctionnelle.
Alors, moi d'abord, de base, je suis kinésithérapeute. J'ai refait une formation après d'ostéopathie, donc à Paris. Très rapidement, j'ai été appelé par la pédiatrie parce que j'ai eu beaucoup de petits patients très rapidement dans mes consultations. J'ai effectué du coup beaucoup de formations en rapport avec la pédiatrie, avec comme base commune toutes ces formations, ce qu'on appelle les postures de confort du nourrisson. Postures de confort, ça a été modélisé par Robert Rousse. Et en fait, ces formations, elles ont été vraiment comme une révélation pour la compréhension de l'état tensionnel chez le tout petit. Et l'impact des tensions sur la sphère orofaciale, digestive, mais aussi sur le développement harmonieux d'un point de vue psychomoteur chez le tout petit. Donc j'ai travaillé dans plusieurs sortes pluridisciplinaires jusqu'en 2019. Puis après, on a ouvert une maison de soins avec mon épouse, dans laquelle on a la chance de travailler avec toute une équipe autour de la périnatalité. Le travail en équipe, c'est quelque chose qui me semble vraiment hyper, hyper important dans bien des domaines, mais dans ce qui concerne tout ce qui est périnatalité, ça me paraît vraiment essentiel de collaborer avec différents prestataires de soins.
Et donc, notamment avec des logopèdes et avec des médecins généralistes, avec d'autres disciplines. Il y a quoi dans ton entourage comme discipline ?
À la maison de soins, on a la chance d'avoir deux chouettes psychologues, dont une qui est kinésiologue, une sage-femme, une nutrithérapeute, une kinésithérapeute qui fait toute la rééducation autour du périnée, et une doula qui est accompagnatrice à la naissance et massothérapeute, ainsi qu'une coach.
D'accord. Ok, donc toi, tu es vraiment la pluridisciplinarité, c'est quelque chose que tu pratiques au quotidien.
Tout à fait.
Et pas spécialement en éducation fonctionnelle, mais aussi dans tous les domaines de ta pratique.
Quoi. Exactement.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les trois ? Comment est-ce que vous avez engrangé ce système de collaboration ? À un moment, vous vous êtes dit, bah, tiens, on partage un peu les mêmes idées. Et donc, du coup, pourquoi pas collaborer ? Est-ce que, Anso, tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passée cette rencontre ?
Oui, bien sûr. Déjà, on travaille dans la même région, donc okay. Forcément, ça facilite les choses. Et donc, on a eu l'occasion de se rencontrer à une soirée avec Pierre. Et puis, voilà, on s'est présenté avec Laura et on s'est rendu compte que c'était riche de pouvoir connaître les prestataires chez qui on envoyait, parce qu'on dirigeait déjà nos petits patients à gauche, à droite. Oui. Mais c'est d'autant plus facile finalement d'avoir de faire rentrer et de créer des liens au sein de notre réseau de soins, on en a
bien
déjà
sûr,
parlé.
Bien sûr.
Et voilà, et de fil en aiguille, ben, on a échangé beaucoup, on s'est posé l'un l'autre des questions et c'est super riche. Hein, au-delà des échanges qu'on peut avoir par rapport aux patients qui tournent au sein de l'équipe pluridisciplinaire, etc., le fait même parfois de poser des questions, on a chacun un point de vue tellement différent et des yeux tellement différents sur le patient, quel que soit son âge. Voilà, ça nous semblait. Et c'est comme ça qu'on a construit finalement notre dynamique de fonctionnement.
On en a déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes précédents, mais le fait justement de se construire ce réseau permet d'avoir un meilleur suivi du patient, parce qu'en fait on connaît les autres praticiens, du coup c'est plus facile, l'échange est bien meilleur que si simplement juste on référence.
Forcément maintenant on ne peut pas non plus imposer.
Bien sûr.
Voilà, nous on sait
évidemment
qu'on collabore, quand les patients sont demandeurs d'un nom, d'une personne, on va donner des noms,
bien
etc.
Sûr.
On n'est pas dans une pratique exclusive, mais oui, ça facilite les choses et puis on sait, je pense que voilà, on se comprend.
Ben oui, et puis même pour les parents des petits patients qui viennent, j'imagine qu'ils voient tout de suite le fait de référencer des gens de confiance. Ils se disent, bon, ok, ben là, si ce praticien que j'apprécie me conseille un autre praticien et il a l'air d'avoir entièrement confiance en lui, ben c'est beaucoup plus simple.
Oui, forcément, ça met en confiance ouais, le parent, bien sûr.
Exactement, ouais, exactement. Quelle a été l'idée première chez Anso et chez Laura de collaborer avec un ostéopathe? Parce que donc, vous nous aviez parlé de votre collaboration à deux, et donc ça, je vous invite à réécouter le deuxième épisode. Mais donc ici, vous travaillez en collaboration avec Pierre. Quelle a été l'idée première?
Alors, y a plusieurs raisons. Y a plusieurs cas de figure aussi qui nous ont amenés à collaborer. Mais en fait, on travaille quand même énormément l'état tensionnel du patient. On est amené à lui demander de savoir bien téter chez le tout petit, bien avaler chez l'enfant, bien mastiquer, etc. Et des fois, on rencontre des limites où on est face à un patient qui est vraiment en état de tension, qui n'est pas symétrique et où clairement, on se dit, moi, en tant que logopède, dans mon cas, je n'arrive pas à poursuivre mes objectifs avec un patient. J'ai besoin de dézoomer la situation et travailler en collaboration, notamment avec Pierre, me permet de lui transmettre ce que moi j'observe, quels sont mes objectifs, quelles sont mes limites. On a un petit peu notre routine maintenant dans ce qu'on se transmet comme information. Et puis Pierre va lui observer le patient avec ses compétences et sa vision qui est différente de la mienne. Et on remarque en effet que du coup, l'état tensionnel que Pierre peut observer ou la posture que Pierre peut observer chez un patient vient un peu expliquer les limites que moi je rencontre. Et donc, en travaillant en collaboration, chacun, évidemment, on pose nos objectifs thérapeutiques, mais on se rend bien compte que tout est lié. Hein, on le sait, hein, le corps, c'est une globalité. On arrive à optimiser chacun ce que l'on recherche chez un patient.
Et cette globalité, elle est clairement encore plus flagrante, j'ai envie de dire, même d'un point de vue visuel, tout simplement, sans pouvoir avoir touché le patient, mais rien que de le regarder chez le tout petit bébé. Moi, j'ai très régulièrement en consultation, toute seule ou avec Laura, des bébés pour des problématiques de succion, des difficultés de prise de sein ou même de prise de biberon. Et c'est vraiment cet intérêt de dézoomer. Parce que c'est sûr qu'on va s'attarder aux fonctions orofaciales, à cette fameuse ventilation nasale, etc. Mais cette fonction linguale va être tellement, et les compétences du tout petit, dès la naissance, vont vraiment être influencées par l'état tensionnel, la posture du bébé, les contraintes qu'il y a eu pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Il faut vraiment pouvoir avoir ce dézoomage. Et parfois, effectivement, les difficultés que le bébé rencontre ou que les parents rencontrent, c'est pas vraiment nous qui allons pouvoir, mais nous, on va rediriger et puis on va après accompagner, aider, etc. En attendant que le travail puisse être fait, on va proposer des gestes d'aide, etc. C'est vraiment cette idée d'avoir un équilibre tensionnel et postural qui est optimal dès la naissance pour pouvoir bien fonctionner finalement.
Pierre, tu peux aussi, de ton point de vue, nous expliquer justement l'intérêt de cette collaboration et peut-être de manière encore plus précise de nous expliquer quel est ton rôle vraiment quand tu reçois des patients de Laura ou de Anso? Quel va être ton rôle précis autour de cela?
L'idée, c'est vraiment de voir le patient dans sa globalité. Donc ça, c'est la première chose. On va faire le bilan de l'état tensionnel global du patient, souvent du tout petit, parce que moi, je travaille beaucoup avec les tout petits-petits. Donc l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre ce qu'on appelle la posture de confort du nourrisson,
ouais.
et donc qui est directement en lien avec l'état tensionnel du tout petit, et ses différentes fonctions.
Ouais.
Donc on va aller observer tout ce qui est succion, déglutition, respiration, digestion, et mettre en lien vraiment la posture finalement avec ces fonctions-là.
Et en quoi alors la posture est vraiment décisive pour ces fonctions-là ?
Quand un bébé naît, ce qu'on lui demande finalement les premières semaines de vie, c'est d'être dans sa flexion. Donc c'est cette fameuse posture fœtale. Vous voyez, c'est en roulement là, comme on voit les bébés dans le ventre. Et en consultation, quand on a des bébés qui arrivent pour de l'inconfort, pour des pleurs, pour des difficultés de succion, etc., c'est très régulièrement, pas toujours, il y a d'autres causes, mais des bébés qui ne sont pas dans cette flexion, qui sont sortis de cette flexion, soit parce que pendant la grossesse, la posture dans le ventre, dans l'utérus, n'a pas permis d'être bien aisée, soit c'est l'accouchement.
Hein. Okay.
Les accouchements, voilà, ça peut être de l'accouchement rapide qui parfois n'est pas toujours spécialement bien toléré par le bébé, même si la maman l'a bien vécu, aux accouchements compliqués avec des extractions, etc., des instruments, voire des passages en césarienne. C'est toutes des choses qui vont modifier ce fameux enroulement que ce tout petit a, cette flexion, cette posture en flexion, et on va se retrouver avec des bébés qui sont plus, qui partent dans leur extension, donc vraiment la chaîne arrière, et c'est typiquement des parents qui vont arriver en disant, oui, on nous a dit que il tenait déjà très bien sa tête pour deux semaines, c'est vraiment le bébé qui tient.
Et en fait, il est sous tension.
C'est la chaîne à l'arrière du corps qui est trop activée, mais quand cette chaîne, elle est trop activée, tout le complexe lingual, mandibule, hyoïde, etc., en fait, est complètement chamboulé et c'est pas faire son travail par rapport à la succion. On parle du tout petit, là.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'est un bébé qui, si on ne rééquilibre pas avec le travail ostéopathique et puis parfois un peu de kiné pour travailler l'enroulement, pour montrer aux parents ce qu'il faut amener, etc., parce que parfois, les parents se sentent un peu perdus et démunis, si on ne fait pas tout ça, ça ne permet pas de récupérer des fonctions orofaciales optimales avec une belle succion, etc. Il y a parfois besoin en plus d'un soutien, de montrer des choses, de stimuler, de réveiller, d'avoir un éveil proprioceptif et sensoriel en péribucal, etc., qui doit être optimisé. La posture, c'est ça. C'est vraiment comment se présente ce tout petit, en sachant qu'il va devoir, si je ne me trompe pas, Pierre, découvrir l'extension vers 2-3 mois.
Oui.
On est d'accord.
Oui.
Et c'est là qu'il va commencer à avoir ce fameux tonus et ce maintien céphalique. Et il peut découvrir, il va s'ouvrir au monde finalement.
Mais pas sous tension.
Voilà. D'un point de vue neurologique, il a construit des nouvelles choses qui lui permettent d'explorer son corps différemment, de contrôler son corps en fait.
Ouais.
Et de ne plus être dans cette position de petit bébé tout croquevillé, position fœtale.
Tout à fait. Mais donc on comprend bien, vous parliez de globalité déjà depuis pas mal de minutes, donc on comprend bien que la posture intervient dans cette globalité. Et en fait, on le comprend aussi, je ne sais pas si je prends un simple exemple de chanteurs qui doivent se tenir d'une certaine manière pour pouvoir donner la plénitude de leur voix. Si je comprends bien, c'est un petit peu ce système-là en fait, c'est que si le bébé n'est pas dans une posture correcte, ses fonctions ne peuvent pas fonctionner correctement.
Oui, tout à fait. Et puis alors, si on perdure dans une posture qui n'est pas celle que l'on attend, on a des enfants, des nourrissons qui gardent un côté préférentiel, qui mettent tout le temps leur tête de la même manière. C'est sûr qu'on a des impacts sur la succion, la digestion, etc., mais ça a un impact également sur la forme du crâne. On connaît les plagiocéphalies, etc. Et donc, évidemment, on pourrait faire le lien avec le développement des arcades dentaires.
Bien sûr.
Et donc, on revient à cette optique que nous avons de prévenir et de toujours aborder l'enfant dans sa globalité dès le plus jeune âge, parce que ce que l'on fait dès le départ va avoir un impact positif tout au long de la croissance.
Oui, puisque vous parliez notamment de la succion, des enfants qui auraient des problèmes de succion et notamment liés à la posture de l'enfant, on imagine bien que si on ne l'aide pas à retrouver une meilleure posture et à avoir une meilleure succion, la langue étant un élément primordial dans le développement des arcades dentaires, on imagine bien qu'il y a des problèmes après et que c'est plus compliqué à les régler en plus, parce que ça fait plusieurs épisodes qu'on parle de tout ça, on a bien compris que c'était des aides à chaque fois, c'est pas miraculeux, on claque pas des doigts et ça peut pas, sinon ce serait absolument génial, mais vous aurez plus de métier. mais du coup on comprend bien l'idée à chaque fois de faire de la prévention et d'aider le patient, le petit patient, à avoir moins de problèmes un petit peu plus grands, à avoir encore moins de problèmes un petit peu plus grands, à avoir encore moins de problèmes. Et donc, c'est vraiment cette idée de traitement précoce qui est primordiale dans la philosophie de l'éducation fonctionnelle, même si, évidemment, l'éducation fonctionnelle, on parle d'éducation fonctionnelle avec les dispositifs fonctionnels. Ici, on n'est pas tout à fait là-dedans parce qu'on parle du nourrisson et, évidemment, on ne donne pas... On peut donner des appareils plus tard, vers 2 ans et demi, 3 ans, mais là, on n'est pas encore complètement sur ces appareils-là. Quoi.
Et puis, des fois, on traite évidemment des patients un peu plus grands aussi.
Ben oui, c'est ce que j'allais demander, justement.
Et on se rend compte quand même que cette notion de posture ou d'état tensionnel nous pose question et pour ma part, me pose difficulté dans mes prises en charge parce que un enfant qui n'est pas un enfant plus grand,
oui, bien sûr,
qui n'est pas équilibré d'un point de vue tensionnel à qui on place un éducateur fonctionnel ne va pas toujours le tolérer aisément. Et là, Pierre m'est déjà venu en aide et en soutien grâce à ces traitements parce que j'avais un éducateur fonctionnel qui était tout le temps mâchonné du même côté, même sectionné que d'un côté. Mais moi, j'observais une posture céphalique qui n'était pas symétrique. J'avais un enfant qui était en tension ou je reçois des plus grands à qui on place un appareil orthodontique et qui souffre de céphalées, qui ne supporte pas le placement des élastiques. Dans ce cas-là, moi, je me sens quand même dépourvue et c'est vraiment la collaboration qui va permettre aux patients de tolérer le traitement orthodontique ou le port de l'éducateur fonctionnel et qu'on va arriver à lui faire tenir cet éducateur fonctionnel dans la bouche. Mais ça, Pierre, toi, t'en parlera mieux que moi, mais ces tensions, c'est vrai que peuvent être un biais très important.
Oui, donc Pierre, justement, si tu peux nous expliquer un petit peu la démarche que tu fais en collaboration avec Laura, mais justement pour des patients un petit peu plus âgés, donc notamment sur les éducateurs fonctionnels, comment est-ce que tu vas les prendre en charge, ces patients-là ?
Alors, encore une fois, on revient sur la globalité. Donc, je commence toujours par faire l'état des lieux de manière très globale au niveau de la posture du patient. En fonction des zones que je vais trouver qui seront plus sous tension, avec donc un état tensionnel qui est trop important, je vais dire, on va aller déjà essayer de faire prendre conscience, mais ça, je pense que c'est aussi le rôle de la logo, mais essayer de faire prendre conscience au patient de cette tension, de lui proposer aussi des petites choses pour qu'il arrive le travailler de lui-même. Et puis moi, avec des techniques bien particulières, je vais aller essayer, parce qu'on essaye tout, c'est toujours,
bien sûr,
c'est toujours comme ça. Je vais essayer justement de réduire cet état tensionnel, mais évidemment en faisant, en ayant toujours cette vision globale, parce que finalement, c'est pas parce qu'il y a des tensions dans une zone que l'origine se trouve dans cette zone.
D'accord. Est-ce que ça vous arrive de suivre un nourrisson? Mais puis plus tard, une fois qu'il est un peu plus grand, comment est-ce que ça marche? Ou alors en règle générale, une fois que Pierre, tu as vu le nourrisson, tu as l'impression que ton traitement a fonctionné, qu'il est repassé dans les mains de Laura. Est-ce qu'éventuellement, il y a encore possibilité d'avoir une autre collaboration quand il a, je ne sais pas moi, 3, 4 ans et que tu t'es peut-être dit, tiens, là, il faudrait peut-être un éducateur fonctionnel, mais il est déjà passé dans les mains de Pierre. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis encore une fois, peut-être qu'il serait encore bien de repasser encore une fois?
Pierre répondra mieux que moi, mais je pense que de toute façon, rien n'est jamais fixé et acquis. Mm-hmm. On s'attache quand même à des fonctions qui ne sont pas pérennes et qui peuvent être modifiées par mille et un paramètres. Je prends l'exemple d'un enfant qui respire très bien par le nez, qui va avoir une angine, les amygdales vont rester hypertrophiées, il va se mettre dans une posture plutôt d'hyperextension pour dégager sa filière respiratoire et va y rester le temps que peut-être on enlève les amygdales. Il gardera cette mémoire tissulaire, si je peux dire, d'hyperextension qu'il faudra de nouveau aller lever chez
ça.
Pierre.
Il y a d'autres exemples. On peut voir un bébé, forcément, au tout début. Après le traitement ostéopathique, tout va bien. Et puis, en fonction de ce que l'enfant plus tard va vivre, parfois du stress, un traumatisme, il y a un état tensionnel qui va être modifié, donc des fonctions qui potentiellement peuvent être modifiées par la suite. Du coup,
ou une tétine qui a été portée trop longtemps après. La collaboration n'est jamais vraiment terminée en fonction de comment l'enfant va évoluer, de toute façon.
Exactement.
Est-ce que, par rapport au traitement ostéopathique, la relation avec les parents, ans. Elle est toujours bien comprise, reçue. Alors j'imagine que tu vas me dire pas toujours, évidemment. Mais est-ce que c'est un enjeu chez toi ou est-ce que finalement c'est pas tellement un enjeu ?
Alors, si je comprends bien la question, dans la relation que le thérapeute a avec les parents qui amènent leur enfant.
Bah oui, parce que là, on parle évidemment de jeunes enfants, voire de bébés. Donc, il y a de l'inquiétude chez les parents, il y a du stress. Il y a parfois des parents qui disent « Oui, mon enfant, ça va, je le vois, il sourit. » Ou alors « Ah, il porte sa tête très, très bien à 2 semaines. » Donc, évidemment, sans connaissance. Quelle est leur manière d'appréhender ou quelle est ta manière, en fait, plutôt d'appréhender ça ?
L'idée, je pense, c'est d'essayer d'expliquer au mieux la situation aux parents. Donc, c'est vraiment d'être dans le dialogue pour essayer qu'ils visualisent comment est leur enfant. Ça, c'est une première chose. Et puis, leur expliquer vraiment quel est l'enjeu à l'heure actuelle d'un traitement pour la suite. Donc, ça, c'est vraiment mais je pense qu'on a un rôle important dans le dialogue pour essayer justement de faire comprendre l'intérêt d'un traitement et parfois l'intérêt même d'aller chez d'autres thérapeutes pour compléter la prise en charge.
Tout à fait.
Donc c'est vraiment très très important cette façon de communiquer avec les parents.
Je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que nous on regarde le patient quel que soit son âge en tant que thérapeute. Le parent il voit son enfant en tant qu'enfant. Et donc, je pense qu'on n'a pas le même regard, en fait. Et il faut pouvoir amener les choses en disant... parce que parfois, il y a des parents qui n'ont pas vu certaines choses ou qui... c'est normal, ils ne sont pas dans le métier. Je pense que même nous, en tant que soignants, mais en tant que parents, on n'arrive pas toujours à être objectif et à voir nos enfants comme on verrait un patient. Et donc, je pense que c'est important, effectivement, de dialoguer, d'expliquer, s'attacher à la prévention, etc. Après... on a aussi toujours un peu la patientèle qui nous correspond. On aime faire de la prévention, on aime les enfants, amener les enfants à fonctionner vraiment de manière optimale, etc. C'est un peu notre cheval de bataille. Et donc, je pense qu'on a aussi la patientèle qui va avec ce que nous, on propose en termes de prise en charge. Voilà.
En vous écoutant parler, comme ça, vous êtes trois praticiens de disciplines différentes. Pour une bonne collaboration, est-ce que vous faites des formations, par exemple toi Pierre, est-ce que tu suis des formations en logopédie ? Est-ce que toi Laura, tu suis des formations en ostéopathie ? Comment ça se passe à ce niveau-là ?
Je pense que comprendre ce que chaque praticien fait, c'est la clé. C'est la seule façon de pouvoir référencer correctement un patient chez telle ou telle personne. Donc oui, effectivement, on peut parler pour tout le monde, on fait des formations qui ont à chaque fois un attrait avec ce qu'on fait, ce qu'on propose. Ouais. Donc, du coup, j'étais suivre la formation Maillot-Rose et Rose-Croisant de Laura et Anso.
C'est ça.
Donc voilà, et elles ont suivi des formations avec des ostéopathes bien bien qualifiés en pédiatrie, donc oui.
Et ça, au niveau de l'ouverture, c'est facile d'aller s'inscrire dans une formation pour d'autres disciplines ou justement, il y a un petit peu... Parfois, vous êtes confronté à des barrières comme ça ?
C'est variable. Parfois, moi, j'ai des portes qui peuvent se fermer parfois.
D'accord.
Mais voilà.
On fait preuve de compréhension si c'est non. Et si c'est oui, on essaye d'expliquer notre démarche. Moi, c'est vrai, comme Pierre le disait, j'ai été suivre une formation d'ostéopathie pédiatrique. Pas du tout pour pratiquer, mais pour comprendre ce qu'un ostéopathe pouvait clairement apporter, pour un peu aiguiser mon œil, de dire, là, c'est une limite.
C'est ça.
Là, je devrais peut-être référer. Et donc, c'est super riche et aussi de s'observer l'un à l'autre, travailler, de
Bien
savoir
sûr.
Ce qu'on peut proposer.
On n'a pas les mêmes boulots au départ, les mêmes métiers, donc on n'a pas la même formation de base. Apprendre à regarder un patient, à le toucher, à essayer d'amener des choses, c'est effectivement, moi, toutes les formations en thérapie manuelle et en ostéopathie qui ont aiguisé mon œil, comme Pierre disait, et comprendre, observer, on sait où référer et pourquoi. Et donc, on est d'autant plus efficace parce qu'on est dans une période de la vie où la croissance, elle est énorme. Dans les premières années de vie, on ne peut pas se permettre de se dire qu'on en voit là, puis on ne sait pas, et on perd 6 mois. Mais 6 mois à 3 ans, c'est énorme.
Oui, bien sûr.
Donc, voilà.
Et ça nous permet aussi de bien dialoguer ensemble, je pense. On a un langage d'autant plus commun parce qu'on comprend les connaissances les uns des autres. Et on gagne en efficacité.
Mais oui. Pour une meilleure communication, il faut avoir un vocabulaire qui est semblable et commun. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Mais on le voit ici. On entend, quand on vous entend parler, on entend les mêmes mots, on entend la même base commune, ce qui apporte évidemment de la fluidité dans le suivi des patients, parce que c'est quand même ça. L'objectif principal, c'est que le patient soit traité correctement, avec une parfaite fluidité entre les différents praticiens. On a abordé, évidemment, tout au long de cet épisode, pourquoi l'ostéopathie était intéressante dans la prise en charge des fonctions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Pierre, dans l'apport de l'ostéopathie par rapport à un traitement orthodontique ? Parce que quand on parle traitement orthodontique, ben, on parle évidemment d'un traitement sur des patients un peu plus âgés. Est-ce qu'on est aussi là, toujours dans le même cadre postural ? C'est vraiment la base ou alors il y a d'autres choses qu'on peut déceler et sur lesquelles on peut travailler avec l'ostéopathie ?
Moi, c'est toujours ma base.
C'est ça.
Je reviens toujours à ça parce que ça me semble être essentiel de comprendre comment finalement le patient est posturalement pour essayer de visualiser correctement son état tensionnel.
Oui.
Après, évidemment, en fonction du traitement qui est proposé en termes orthodontiques, bah, il va y avoir des tensions différentes,
ouais,
qui vont apparaître. Et donc, le traitement va être spécifique. Donc, je pars toujours d'une certaine globalité pour après me fixer sur des zones, finalement, une fois que j'ai dégrossi le travail, si je puis dire,
ouais,
pour me fixer sur des zones qui sont vraiment en lien, finalement, avec l'état de tension lié au traitement orthodontique, par exemple.
Et on s'est déjà dit avec des patients en cours de traitement orthodontique que là, il y a des patients chez qui ce serait intéressant que tu les revoies un peu plus souvent parce que des fois, le traitement orthodontique va vite. Donc ça crée beaucoup plus de tension. L'orthodontiste va peut-être rajouter des élastiques, des choses comme ça. Et donc ça module tout le temps l'état tensionnel du patient et sa proprioception en bouche aussi, qu'on utilise beaucoup nous dans les prises en charge logopédiques, même si Pierre aussi dans une autre, enfin plus globalement. Et donc il faut des fois aller lever plus souvent l'état tensionnel parce que ça peut, voilà, on a eu 2-3 patients où il y avait vraiment des douleurs aussi lors du traitement ortho et voilà, là c'est aussi très intéressant.
Est-ce que toi, Pierre, tu as des relations directes avec certains orthodontistes ? Non.
Non.
Ça, pas
encore.
Mais par contre, tu peux en sentir le besoin à certains moments ?
Oui, à un moment donné, c'est sûr qu'on aimerait avoir un contact.
Ouais.
Donc voilà. Mais...
Ça viendra.
parce J'espère.
Oui, parce que de toute façon, Laura, toi, dans ton entourage, tu as des orthos qui sont très ouverts à l'éducation fonctionnelle.
Oui,
tout à fait. Et, bon, tu travailles ici chez Mayoro et avec Sébastien et Laurence, qui, eux, bah, Laurence, elle travaille encore dans un cabinet orthodontique.
Tout à fait.
Sébastien, il a travaillé pendant très longtemps dans un cabinet orthodontique. Donc ça, chez toi, la relation avec les orthos, c'est quelque chose qui est déjà ancré en toi, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait, on aime bien prendre des contacts. Je pense qu'on a déjà assez appuyé sur le fait qu'on aime avoir un réseau, pouvoir échanger, appeler quand on a une question, une limite, quand on voudrait savoir comment va se dérouler un traitement, pour pouvoir nous aussi pouvoir envisager notre prise en charge logopédique de façon adéquate. Donc c'est important, mais voilà, c'est vrai que créer un réseau, c'est très énergivore, ça prend du temps. Il faut le faire petit à petit et voilà, mais c'est en effet ce qu'on fait.
Je vous propose maintenant de vraiment venir sur l'essence même de votre philosophie, la respiration et la ventilation. Si je ne me trompe pas, la ventilation, c'est la fonction qui est le plus pratiquée par l'être humain ou même par les êtres vivants peut-être, sans doute.
H24.
Ouais, c'est ça, même quand on ne le veut pas.
Voilà, quand on dort.
donc vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision sur quel impact peut avoir l'ostéopathie précisément sur cette fonction-là, sur la ventilation, la respiration ?
Par rapport à la ventilation, on a beaucoup parlé du tout petit hein, dans ce podcast-ci.
Ouais.
Il faut savoir que la ventilation, elle ne peut être que nasale chez le bébé. Et donc, le premier cheval de bataille, c'est vraiment de se dire, il faut que j'ai un nez qui soit dégagé, qui soit libre. Qu'est-ce qui peut entraver ou amener un nez qui va être tout le temps encombré? On va penser potentiellement au phénomène de reflux, etc. Donc, c'est toutes des choses qui doivent être vues dans une globalité. De nouveau, là, c'est, par rapport collaboration ostéo, mais de nouveau, on est très large dans nos visions ORL, etc. etc. Se dire que cette ventilation nasale, le but, c'est qu'elle perdure. Et qu'elle soit confortable. Et des états tensionnels par rapport à la fluidité, à la facilité de ventiler finalement, Pierre, il a effectivement tout son rôle à jouer par rapport à l'état tensionnel.
Effectivement, par rapport à la respiration, chez le tout petit, Anso était en train justement de nous expliquer avec le reflux, un potentiel reflux chez un tout petit, ce qui va se passer, c'est qu'il faut essayer de comprendre déjà d'où provient ce reflux.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment un reflux? Est-ce que c'est lié à la position du bébé? Est-ce que c'est lié à la position du corps? Est-ce que c'est lié à la position de la tête? Donc, encore une fois, tout ça, c'est... On revient sur les bases, sur la posture. Ça, c'est chez le tout petit. Chez les plus grands, l'idée, c'est vraiment donc d'avoir une respiration nasale. Quand on a des enfants qui ont une respiration buccale, ils vont en règle générale avoir une posture associée à ça.
Ouais.
Ils vont utiliser des muscles respirateurs accessoires aussi, beaucoup plus que la normale finalement. Mm-hmm. Et donc créer un état tensionnel particulier. On sait aussi, on remarque aussi régulièrement qu'au niveau de l'ampliation thoracique et de la course vraiment du diaphragme, c'est aussi souvent restreint chez les patients qui ont une respiration finalement buccale. Et le fait d'aller relâcher toutes ces structures-là et de rendre toute la bonne mobilité à finalement toute la cage thoracique, ça va permettre de soutenir vraiment le travail et l'objectif logopédique.
Par rapport à l'éducation fonctionnelle, souvent c'était on voit un patient vraiment avec tous les traits tirés vers le bas, les épaules voûtées, on décèle tout de suite que c'est un respirateur buccal. Alors là, je ne parle pas du nourrisson, évidemment, je parle des patients qui vont dans un cabinet orthodontique. Donc là, l'idée, c'est de leur redonner en fait, du tonus, en fait, d'une certaine manière.
Oui, effectivement, c'est de redonner du tonus, mais c'est aussi, finalement, encore une fois, c'est de voir... Est-ce que c'est bien en premier lieu de travailler en ostéopathie ou est-ce qu'il faut d'abord essayer de comprendre la problématique?
Bien sûr.
Donc, en règle générale, ils ne viennent pas chez moi en première attention, ces patients.
D'accord.
Ils sont souvent référencés par la suite et donc il y a un traitement qui est mis en place avant.
Ouais.
Et moi, je viens plutôt en soutien.
Mais tu peux aussi dire que les respirateurs buccaux, c'est plutôt des patients qui ont tendance à un peu...
Aux épaules enroulées vers
l'avant. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Refermer sur
eux-mêmes. Tout à fait. D'accord. Ok. C'est intéressant d'avoir cette idée-là. Parce que justement, donc chez le nourrisson, on parlait de tension, vraiment quasi extension. Puis après, une fois qu'on passe en fait, c'est toi qui disais ça, Anso. Tu disais que c'est quoi? À partir de 2 mois, il doit trouver une...
Deux, trois mois. Doit pouvoir découvrir son extension. Mais le début, c'est vraiment cette idée d'avoir un petit bébé tout enroulé dans sa flexion.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et puis après, on a un équilibre tensionnel avec les chaînes antérieures et postérieures qui sont équilibrées et on a cette capacité à se tenir droit avec un port de tête, etc.
Ouais.
Et c'est là qu'on voit les dysfonctions, mais de nouveau, on observe le patient, etc.
On a aussi tous nos patients qui sont plutôt hypertoniques, qui doivent être pris en charge et parfois, c'est même assez complexe, chez qui on observe beaucoup de tensions, on peut... observer du bruxisme, les parents arrivent souvent avec cette plainte, ils serrent des dents, ils nous réveillent la nuit, ou bien la langue est sans cesse en mouvement, il y a du pourléchage, et donc c'est des enfants qui sont sans cesse en train d'entretenir un état tensionnel. Alors nous, on vient en tant que logopède et on se dit, il faut d'abord lui faire ressentir cet état tensionnel, réaliser une prise de conscience, il faut essayer de l'éduquer. On essaye de lui faire comprendre comment arriver à un état tensionnel qui est beaucoup plus raisonnable, etc. Mais il n'est pas dit qu'on y arrive seul en tant que logopède, même si on place un intercepteur labial, par exemple, qui peut être très intéressant dans ce contexte. Et c'est l'ostéopathe qui va pouvoir venir soutenir notre travail pour qu'on parvienne aussi à nos objectifs.
Pierre, toi, parfois, tu reçois des patients qui n'ont encore vu aucun de tes collaborateurs, entre guillemets, collaborateurs éloignés, on va appeler ça comme ça. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi de te dire, OK, il y a du travail ostéopathique, je le vois tout de suite, mais ça serait intéressant que ce petit patient passe aussi entre les mains d'une logopède. Et donc, je vais lui conseiller d'aller voir Laura ou quelqu'un d'autre. Ça t'arrive aussi?
Oui, ça arrive.
Dans ce sens-là, ça arrive aussi?
Ça arrive aussi.
Hein. D'accord.
Oui, bien sûr. Okay. C'est assez fréquent, finalement.
Okay. Hein.
Mais c'est quand même plus souvent... Enfin, je dis c'est assez fréquent, mais c'est quand même plus souvent dans l'autre sens que ça arrive.
C'est ça,
quoi.
Tout ouais. à fait.
Mais c'est important, hein, à un moment donné, de pouvoir se prendre le recul et se dire, bah, en fait, moi, je ne peux pas intervenir maintenant. Si j'interviens maintenant, de toute façon, ça ne me tiendra pas non plus. Donc, il faut qu'il y ait vraiment cette pluridisciplinarité qui se mette en place, finalement. Parfois, les parents, ils arrivent, ils ne savent pas. On leur a conseillé de venir chez l'ostéopathe parce que c'est bien. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir bien informer les parents.
Évidemment.
Et bien leur faire comprendre l'enjeu, finalement, de la prise en charge.
Bah, tout à fait, parce que voilà, moi, j'ai 3 enfants, je le vois bien. Parfois, ton enfant, il a quelque chose, tu demandes un peu autour de toi, tiens, tu penses que, ah, bah si, aller voir un tel, oh, bon, ok, mais tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer, en fait. Et donc, il faut avoir confiance, il faut bien comprendre. Donc, on comprend ici tout l'enjeu de travailler dans la globalité, de travailler en pluridisciplinarité et de bien prendre conscience l'ensemble des éléments qui peuvent aider le patient, qu'il soit tout petit ou plus grand, à se porter mieux dans la continuité et pas juste à un moment fixé dans le temps. Parce que l'idée, c'est que l'enfant puisse évoluer correctement et en toute tranquillité. Tu voulais rajouter quelque chose, Laura?
Mais c'est d'autant plus difficile, je trouve, de conseiller et d'orienter parce qu'il n'y a pas une recette qui s'applique à chaque patient. C'est patient dépendant, ça dépend de ce que chacun va observer, va trouver. Et nous-mêmes, des fois, on n'a pas la réponse. On ne peut pas dire aux parents, je vous remets un rendez-vous, je vous envoie en ostéopathie, puis je vous remets un rendez-vous. Non, il peut arriver qu'on mette des prises en charge en suspens en disant, écoutez, moi, là, je rencontre une limite. Je pense que ce serait intéressant de consulter un ostéopathe ou un ORL ou de refaire un point ou l'autre. On se recontacte après.
Oui,
et on
sûr.
Verra,
évidemment.
Parce qu'on n'a pas toujours les réponses, et donc on
Tout
navigue
fait.
Par rapport aux résultats qu'on obtient, à si ça tient dans le temps, à si ça ne tient pas, et donc on éduque le parent à observer son enfant, on éduque aussi l'enfant plus grand à se dire, ben voilà, oh, ça refait mal, oh, j'ai ça, oh, ben non, j'ai encore sorti ma bouche, on peut donner des petits tableaux pour qu'ils s'observent ou autre, mais... C'est ça aussi qui est complexe, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite.
Bien sûr, et puis c'est très très important, ça se voit dans toutes les, que ce soit des disciplines médicales ou peu importe la profession, mais c'est de connaître ses limites et de pouvoir être conscient de ses propres limites et de ce fait-là, d'avoir un réseau suffisamment important pour justement dire, bon ben là je suis confronté à une limite, est-ce que toi par exemple, tu pourrais m'aider? Ah ben oui peut-être, et avancer comme ça, parce que celui qui pense qu'il connaît tout, il va droit dans le mur a priori. Je pense qu'on peut s'arrêter là si ça vous va. C'était très intéressant, je vous remercie. Ben, à bientôt.
À bientôt, merci.
À bientôt.
Merci.
Parlons fonction.